Et vous avez donc déjà le titre et la référence dans la Bible, donc Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 8, verset 35, à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a dans la parole de Dieu des expressions qui nous amènent à réfléchir. Et notamment, il y en a une ici que nous avons lue au verset 37 qui nous rappelle que nous sommes plus que vainqueurs. Ça nous fait réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'il y a le mot « plus » qui est là, qui vient en rajouter. On sait ce que c'est que d'être vainqueur. Mais ici, la parole de Dieu, et ça nous amène à réfléchir, nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alors déjà, c'est extraordinaire d'être vainqueur. Mais là, c'est encore mieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Cela arrive à la fin de ce chapitre 8, et ce chapitre 8 est tout à fait remarquable, qui vient comme articuler, j'allais dire, toute cette épître aux Romains qui nous parle de la foi, qui nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous parle de son amour, qui nous parle de l'assistance du Saint-Esprit. Et nous savons qu'en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs car il a déjà accompli tout ce qui était nécessaire et indispensable pour notre salut et pour notre vie ici-bas. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et en plus, nous avons une espérance extraordinaire. Nous sommes donc plus que vainqueurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ car il a tout accompli sur la croix. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de combat, bien sûr, il y en a. S'il n'y avait pas de combat, on n'emploierait même pas le mot de vainqueur. Il y a des combats, mais une victoire est assurée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme le peuple en Canaan, lorsqu'il est entré en Canaan, ils étaient forts d'une promesse, celle de la victoire, que Dieu les accompagnerait, que Dieu serait avec eux, qu'il leur avait donné ce territoire. Mais néanmoins, il fallait quand même combattre. Mais la victoire était assurée. Ils ont connu certes quelques défaites, mais à chaque fois, quand on analyse ces défaites, ils étaient aussi responsables de ces défaites. Mais en Christ, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs. L'apôtre Paul, ici, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que dans toutes ces choses, j'ai mis différentes couleurs dans certaines parties de phrases de ce verset, ça nous aide parfois ainsi, quand on dissèque ainsi les versets, ça nous aide à réfléchir, à méditer dans toutes ces choses, De quelles choses l'apôtre Paul nous parle ici ? Il faut remonter, bien sûr, au verset 37, où il dira, eh bien, il parle de tribulation. L'apôtre Paul a eu son lot de tribulation et nous savons que nous avons aussi notre lot de tribulation. Jésus nous avertit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. plus que vainqueur. Alléluia. Il nous parle d'angoisse. L'apôtre Paul a eu son lot d'angoisse. On voit même Jésus, un peu avant la crucifixion, on voit Jésus aussi qui a eu des angoisses. Il nous parle de persécution et l'apôtre Paul a eu son lot de persécution comme aujourd'hui encore l'Église est persécutée. Mais nous, là encore, nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus nous a assuré eh bien, qu'il garderait son peuple et il nous a assuré qu'il nous prendrait avec lui. Il parle de faim et d'unité quand bien même cela arriverait. Et nous savons que le Seigneur a dit, mais quand on aurait la nourriture et le vêtement, cela nous suffirait. Et quand bien même on n'aurait plus ça, nous savons encore que Dieu nous aime. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous ne voulons pas donc nous attacher aux choses de cette terre. Je peux dire, parfois, il y a des choses qui ne vont plus dans notre vie. Il y a peut-être des manques qui sont là. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus est toujours fidèle. Il parle encore de péril, il parle d'épée. Donc, toutes ces choses-là, on pourrait en énumérer d'autres. On pourrait aussi parler de ce verset 38, il parle de la mort, il parle de la vie, il parle des anges, des dominations, des choses présentes à venir, des puissances, des hauteurs, de la profondeur, ni aucune autre créature. Donc toutes ces choses-là, dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. On pourrait en trouver d'autres dans la parole de Dieu. On pourrait aussi énumérer ce que l'apôtre Paul évoque à la fin du chapitre 7, lorsqu'il parle de ce combat intérieur à partir du verset 14, il parle de ce combat à l'intérieur à cause du péché, je ne sais pas ce que je fais ce que je ne veux pas, et il fait même ce qu'il est, ce qu'il ne voudrait pas faire, il le fait à cause de ce péché qui est là, il y a une lutte intérieure. Et il va même s'écrier au verset 24, « Mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et c'est aussi notre combat à nous. Parfois, nos pensées nous accaparent. Il y a des pensées qui viennent là, qui sont là, et qui viennent comme nous harceler, nous obséder. Il y a une lutte intérieure contre le péché. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Par Jésus-Christ qui nous a aimés. Le problème, c'est que parfois, nous n'entrons pas dans cette vie de victoire parce que nous prenons certaines paroles de Jésus comme des commandements à obéir, à suivre, au lieu de vérité à croire. C'est différent. Ce sont des vérités à croire. Et dans la mesure où il y a cette dimension de foi dans notre cœur, ces choses que nous a dit Jésus deviennent pour nous réalisables parce que ces commandements ne sont pas pénibles car ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Jean le dira, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et c'est pour cela que ces commandements ne sont pas pénibles. Mais s'il n'y a plus la foi, les commandements que nous a laissés le Seigneur deviennent difficiles, deviennent pour nous accablants. On peut même se placer sous une condamnation, sous une culpabilité. Mais rappelons-nous, et l'apôtre Paul commence ce chapitre 8 par cela, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si ces commandements ne sont pas pénibles, c'est parce qu'il y a la foi qui triomphe du monde. Prenons donc ce que nous a dit le Seigneur comme des vérités à croire, des promesses qui sont réalisables en son nom précieux, dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous reparlerons tout à l'heure de l'amour du Seigneur. Mais avant de parler de cela, pourquoi, puisque nous sommes plus que vainqueurs, connaissons-nous tant de défaites? Pourquoi? Pourquoi parfois, ces combats qui sont là, intérieurs, prennent le dessus? Alors, on pourrait énumérer plusieurs raisons à cela. Mais puisque nous parlons de la foi, il y a la parole de Dieu qui est là, les promesses du Seigneur qui sont là et qui sont oui et amen. petit mot amen, hein, qu'on prononce assez souvent, mais qui veut en dire long. On peut le prononcer de la bouche sans que le cœur y soit. Les promesses du Seigneur sont oui et amen. Le Seigneur n'est pas un homme pour tromper notre confiance. Le problème, c'est que à ce oui et à ce amen, nous y rajoutons un mais. C'est la défaite du oui mais. Ça n'a rien à voir avec la victoire du 8 mai. Hein. C'est un petit jeu de mots en passant. C'est pour demain, ça. Mais la défaite du oui mais. Oui, on dit oui aux promesses du Seigneur. On dit oui à tout cela, mais... On va prendre un exemple. On va lire ensemble dans Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. On va lire à partir du verset 27. Nombre 13. Donc, je rappelle le contexte. Moïse a envoyé 12 espions, un de chaque tribu, en territoire de Canaan. Le Seigneur leur avait fait une promesse, un pays où coule le lait et le miel, qu'ils seraient avec eux, qu'ils seraient vainqueurs de leurs ennemis, et qu'ils remporteraient la victoire et qu'ils pourraient s'installer dans ce territoire que Dieu leur avait donné. Et donc, au retour de cette exploration de Canaan, verset 27, nous lisons ensemble, « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons !» « Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Tous ceux qui... que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. À la vérité, ils n'ont pas pu le nier, hein. À la vérité, verset 27, c'est un pays où coule le lait, le miel, et en voici le fruit. C'est ce que leur avait dit le Seigneur. Il leur avait dit que c'était un pays d'abondance, un pays où coule le lait et le miel. Et ils sont revenus, effectivement, ils ne pouvaient pas nier cette évidence-là. Ils ont même rapporté une grappe de fruits tellement énorme qu'ils ont été deux à porter cette grappe de raisin sur une perche. Donc voilà, donc, ils ont vu toutes ces choses, ils ont rapporté ces fruits. Voilà, et en voici les fruits. Donc voilà, il y avait une évidence. Et là, c'est oui, c'est la réalité. C'est un bon pays. Ce que Dieu leur avait dit, c'est un bon pays. Il y a de quoi nourrir toutes vos familles. Il y a de quoi nourrir toute la nation. Mais. Et là, ça va se gâter. Il n'y avait pas que. Ce constat-là à faire. Dieu leur avait dit que c'était un pays où coule le lait et le miel, mais il leur avait aussi donné cette promesse qu'ils seraient vainqueurs. Et ils se sont attardés sur les peuples qui habitaient cette contrée, des peuples réputés pour être redoutables, armés jusqu'aux dents, des villes fortifiées, et en plus, les enfants d'Anak. Waouh ! Les enfants d'Anak, alors là, eux, ils étaient redoutés partout, des armoires à glace, des géants, et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Frères et sœurs, Dieu nous fait des promesses extraordinaires. C'est vrai que nous aurons des tribulations, mais il nous a toujours fait la promesse qu'il serait avec nous. Et en lui, nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oui, et amen à cela. Parfois, nous y rajoutons un mais. Oui, mais Seigneur, tu connais ma situation. Tu connais mon entourage. Tu connais ma famille. Ils ne vont jamais vouloir. On parlait de Moïse il y a 2 semaines. Moïse aussi avait des mais. Hein. Je n'ai pas la parole facile, avait-il pu le dire au Seigneur. Et nous pouvons nous aussi rajouter tout un tas de mais aux promesses que Dieu nous a fait. Et là, je crois que vraiment, un de leurs problèmes, c'est qu'ils exagéraient les difficultés. Déjà, ils avaient mis en oubli les promesses du Seigneur. Ils mettaient en doute la capacité du Seigneur à venir les aider. Et pourtant, ils ont été au bénéfice de la puissance de Dieu quand même. Nous, on n'a jamais vu une mer s'ouvrir en deux. Oui, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, vous. À part dans les films là, qui retracent la vie de Moïse. Mais en vrai, on ne l'a jamais vu. Mais eux, ils l'ont vu. Ils ont vu la nuée, et ils ont vu la mer rouge se séparer. Ils ont vu toutes les plaies d'Égypte. Ils ont vu, là, tous les matins, ils voyaient la manne déposée sur le sol. Ils n'avaient plus qu'à la ramasser. Ils ont été témoins de prodiges. Ce sont des prodiges. Je veux dire, c'est plus qu'un miracle. Ce sont des prodiges. Ce sont des prodiges. Et là, ils mettent en doute la parole du Seigneur qui leur avait promis qu'ils seraient vainqueurs. Je pense qu'ils étaient dans l'exagération. Nous étions à nos yeux, déjà peut-être qu'ils se méprisaient, et aux leurs, ils voyaient peut-être le mépris dans les yeux des autres, comme des sauterelles. Alors, je me suis amusé à faire un rapport en admettant qu'une sauterelle fait à peu près 5 cm, et avec quelqu'un qui ferait à peu près 1,70 m, ça fait environ 57 mètres. Alors, je veux bien croire qu'il y a des géants, mais quand même. 57 mètres. Hein. Même Goliath, il ne les faisait pas autant. Hein. Quand même, ils exagèrent. Hein. Nous étions à nos yeux, comme aux leurs, comme des sauterelles. Je crois que parfois, l'être humain reste l'être humain. Peut-être qu'on pourrait avoir porté un jugement sur ces enfants d'Israël, mais parfois aussi, je pense que nous exagérons certaines choses. Et quand bien même il y a une réalité qui est là, lorsque nous nous plaçons, j'allais dire, du côté du Seigneur, nous ne voyons plus les choses de la même manière. Rappelons-nous quand même que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et pour parler de Goliath, il réussissait à lui tout seul à terroriser tout Israël, des hommes de guerre. Il a fallu que ce soit un petit jeune, il a fallu que ce soit David qui était encore un adolescent à ce moment-là, et pas très grand encore à ce moment-là, sa croissance n'était pas finie. Et c'est lui qui n'a pas eu peur, il n'a pas regardé à l'apparence, mais il est parti combattre contre Goliath, contre ce géant qui était là, et il l'a terrassé. Le Seigneur est celui qui nous fait des promesses, nous savons eh bien, qu'il n'abandonnera pas son peuple, et nous savons qu'il nous a donné l'Esprit de Dieu. Alors, nous connaissons des défaites parce que, avec la parole de Dieu, avec les promesses du Seigneur, nous rajoutons un mais, ou plusieurs mais. Alors, l'antidote à cela, c'est des mais à nos mais. Oui, les géants sont là. C'est ce qu'a voulu faire Caleb. Caleb a fait taire le peuple. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb a insisté. Mais les hommes, voilà. Et donc, il y a eu une bataille qui s'est engagée. Il y avait Caleb, il y avait aussi Josué qui était avec lui. Mais à tous ces mets-là, à toutes nos paroles qui sont négatives, qui viennent étouffer notre foi, il y a ce chapitre 8 des Romains qui vient contrer tout cela. Il y a des mets à nos mets. Et j'aimerais tout d'abord parler du mets de l'Esprit de Dieu. Oui, effectivement, si on est sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas aller bien loin. C'est pour cela que le Seigneur nous a fait cette promesse du revêtement de puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Sans l'Esprit de Dieu, effectivement, on ne pourra pas aller jusqu'aux extrémités de la terre pour y répandre l'Évangile. Les difficultés sont trop grandes, mais l'Esprit de Dieu est en nous. Au verset 15 du chapitre 8, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ça fait taire toutes les accusations du diable. Verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Alléluia. Voyez ? Oui. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et eux, ils étaient dans la crainte. Le peuple, devant ces géants, était dans la crainte. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous qui rappelle notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et le malin ne nous touche pas. Nous savons que Dieu protège ses enfants. Il est en nous. Il nous donne cette force intérieure, cette énergie dont nous avons besoin les uns et les autres pour faire face à toutes ces difficultés. Il est là, présent en nous, nous communiquant l'amour de Dieu, nous communiquant la sagesse de Dieu, nous donnant du discernement, nous donnant cette force qui vient du Seigneur. Les difficultés sont là, mais l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Frères et sœurs, soyons toujours, en tout temps, remplis du Saint-Esprit. Nous bénéficions de l'assistance du Saint-Esprit. Nous bénéficions de l'assistance du Saint-Esprit. Il le dit un peu plus loin, au verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Oui, il y a une faiblesse qui est la nôtre. On ne la nie pas, cette faiblesse. Mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous voyez, même pour la prière. Nous ne savons pas. Voilà. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Puis il y a la faiblesse qui est la nôtre. Mais l'Esprit de Dieu est en nous. Amen. L'Esprit de Dieu est en nous. Et il intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Il ne nous a pas laissés orphelins, mais l'Esprit de Dieu est en nous et nous ne voulons pas nous priver de cette grâce. L'Esprit de Dieu est en nous et nous voulons vraiment que l'Esprit de Dieu puisse s'exprimer, que l'Esprit de Dieu puisse nous fortifier les uns et les autres. Donc il y a le mets de l'Esprit, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Il y a le mets de l'espérance, on en a parlé il n'y a pas si longtemps de l'espérance. J'aimerais juste lire peut-être 2-3 versets parlant de l'espérance. Au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Mais il y avait l'exagération tout à l'heure du peuple qui se considérait comme des sauterelles face aux géants. Quelque part, là, j'y vois aussi quelque part, dans ce que dit Paul au verset 18, l'exagération qui vient de l'espérance et de la foi, c'est-à-dire il y a les souffrances du temps présent, elles sont là, mais comparées à la gloire à venir, c'est rien. C'est tout petit. C'est tout petit. Et s'il y en a un qui a souffert, c'est bien l'apôtre Paul. On peut continuer notre lecture, verset 19, on en est. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Le « mais » de l'espérance. On peut avoir tout perdu, mais on sait que nos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Le Seigneur nous a gravés sur son cœur. Il nous a gravés sur son cœur. Job avait cette espérance. Il avait tout perdu. Il dira « quand ma peau sera détruite », il le dira bien. Mais il dira au chapitre 19, verset 25, « Mais je sais, lui aussi, à toutes ses souffrances, à toutes ses épreuves, à toutes ses questions, il a opposé le « mais » de l'espérance. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Et il le sait qu'il va le voir. Il a cette espérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand bien même nous aurions faim, quand bien même nous aurions tout perdu ici-bas, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'une place nous est réservée pour nous dans la gloire. Les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir. » Alléluia. Amen. Et puis, ce chapitre 8 encore nous parle de l'assurance et de la foi avec ce verset que nous connaissons si bien, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on lit ce chapitre 8 en entier des Romains, vraiment on est installé dans la foi. On est installé dans la foi. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est extraordinaire tout cela. Et l'apôtre Paul, au verset 38, parle de cette assurance. Même pas la mort, même pas la vie, rien ici-bas ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté. Donc nous sommes dans la foi, dans cette foi que Jésus a été jusqu'au bout sur la croix pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas maintenant qu'il va nous laisser tomber. S'il a accepté cette souffrance sur la croix, s'il a accepté d'être crucifié, d'être fouetté, d'être méprisé, moqué, insulté, on lui a craché dessus pour chacun d'entre nous, maintenant que nous avons été rachetés par son sang précieux, nous laissera-t-il tomber? Maintenant que nous sommes dans des combats, dans des difficultés, maintenant parfois encore, eh bien, dans nos pensées, il y a des luttes, il y a des combats, nous avons un secours précieux dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous que non seulement nous sommes pardonnés, mais dans son sang, nous sommes purifiés de tous nos péchés. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis, il y a le mais de l'amour, l'amour de Dieu. Cet amour qui l'a amené jusqu'à la croix, on vient d'en parler. Je rappelle ce verset 37. « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » L'apôtre Paul rappelle que si nous sommes vainqueurs, c'est par celui, c'est-à-dire Jésus, qui nous a aimés. Et ces meurtrissures sont là, nous rappelant son amour. Et il dira encore au verset 39, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Personne. Hein? Soyons sûrs de l'amour du Seigneur Jésus. Il nous a aimés le premier. Il s'est révélé à nous il nous a fait connaître son amour. Et maintenant, nous voulons vivre dans cet amour. Et être comme l'apôtre Jean, profiter au maximum de son amour, être comme lui qui posait sa tête sur la poitrine du Seigneur, il était très proche. Si vous voulez savoir à quoi ressemble l'amour selon Dieu, lisez le Cantique des Cantiques et essayez de réfléchir à cette intimité de l'amour que le Seigneur voudrait qu'il y ait entre nous et lui. Et nous voulons vraiment être là au plus près du Seigneur pour bénéficier pleinement de cet amour. Il nous aime. Lorsque le diable vient mettre des accusations dans nos pensées, lorsque on pourrait même penser parfois, mais est-ce que je suis vraiment converti ? Rappelons-nous l'amour du Seigneur Jésus. Ne laissons pas nos pensées nous enfoncer. Ne lançons pas toutes ces accusations. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car Jésus, dans son amour, sur la croix, a pris ces condamnations pour chacun d'entre nous. Il les a pris pour chacun d'entre nous. Il y a ces combats qui sont là intérieurs. Mais si nous voulons de nous-mêmes nous débattre, si nous essayons de discipliner nos pensées, c'est bien de discipliner ses pensées, mais si nous le faisons sans l'assistance du Saint-Esprit et en ayant complètement perdu de vue que le Seigneur nous aime, on va s'enfoncer de plus en plus et on va devenir si exigeant envers soi-même qu'on va en perdre toute la joie du salut et tout de même, tout simplement, la joie de vivre aussi. Nous voulons nous rappeler à quel point le Seigneur nous a aimés. C'est pour ça que nous pouvons dire, nous aussi, avec assurance, que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. On ne sait pas ce que nous réserve le reste de cette journée. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Qu'importe, après tout. À chaque jour suffit sa peine. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Plus que vainqueur. Le peuple de Dieu est plus que vainqueur car Jésus a remporté une éclatante victoire. La mort, il l'a vaincu. Même la mort ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous. La vie, tout ce qui pourrait nous arriver dans cette vie, les anges, tous ces êtres célestes, ils parlent de domination, les choses présentes à venir. Des fois, on peut craindre de l'avenir. Qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus ? Quelle tuile je vais encore avoir ? Tant pis, hein ? Le Seigneur nous aime. Nous sommes plus que vainqueurs. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Il y a des choses qui pourraient nous élever. Peut-être le succès, des profondeurs. Peut-être parfois on tombe dans les abysses, je ne sais pas de quoi. Mais toutes ces choses-là, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus est celui qui nous aime. Alors, quand bien même on pourrait avoir tout perdu, nous nous rappelons encore une chose, et ça, c'est une certitude, c'est que Jésus nous aime. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom du Seigneur Jésus, lui qui nous a tant aimés à la croix. Merci Seigneur.